Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est notre quatrième étude concernant le mot final de notre Père. Et c'est le mot merveilleux qui dit Amen. Mais avant de clore cette série d'études, il nous reste bien entendu à considérer ce dernier mot, le dernier de cette prière. Il ne lui est pas particulier sans doute, mais il en fait quand même partie. C'est le mot « Amen ». Il ne s'agit pas d'une formule plus ou moins magique que l'on ajouterait simplement à ses prières pour être plus sûr qu'elles seront exaucées. Non, non, absolument pas. Mais combien de ceux qui prient comprennent ce qu'ils disent quand ils prononcent ce mot? En effet, c'est un des mots hébreux qui subsiste tel quel dans toutes les langues sans être traduit et dans certains passages de la Bible également. C'est un des rares mots que nous prononçons comme le Seigneur Jésus l'a prononcé, exactement la même chose. À vrai dire, les textes originaux l'emploient plus que nous l'imaginons. Ainsi, chaque fois que dans nos traductions nous lisons par exemple « en vérité, je vous le dis », il y a « Amen, Amen », « Je vous le dis ». L'Ancien Testament nous montre que ce mot était essentiellement réservé à l'usage religieux. L'un des passages les plus caractéristiques à cet égard est celui qui nous présente les 12 tribus d'Israël réparties sur les monts Ebal et Garitsim. Et ceci au moment de l'entrée dans la terre promise. En effet, 6 tribus étaient sur le mont Ebal et 6 sur le mont Garitsim. La loi, cette loi donnée par Dieu à Moïse pour son peuple, fut alors lue à haute voix. Et chaque fois que l'un des articles avait été énoncé, le peuple répondait en disant « Amen ». Le Nouveau Testament nous montre que dans les églises de ce temps-là, l'Amen était aussi utilisé. Les participants au culte étaient invités à s'associer aux prières, aux actions de grâce de leurs frères et sœurs, en disant « Amen ». Que veut donc dire cet « Amen » dont les chrétiens ont conservé l'usage conformément à l'enseignement de la Bible? Quel est son sens et sa portée? Voyez-vous, quand nous l'avons traduit par « en vérité », ou qu'il en soit ainsi. Nous n'avons fait que traduire. Le sens du mot, en effet, dépasse de loin la traduction. Amen, c'est le mot, c'est-à-dire c'est ce mot, et pas le mot qui libère, pas seulement cela, et qui finit simplement quelque chose. C'est bien plutôt, voyez-vous, une parole de transition, sinon même de commencement. Ce qui a été proclamé par des paroles, maintenant, à partir de ce moment, eh bien, cela va être confirmé par des vies. Ainsi, quand le psalmiste, au chapitre 72 ou 72, Il dit par exemple que toute la terre soit remplie de sa gloire. Et ensuite, Amen, Amen. Il est évident que les psalmistes se mettent à l'œuvre pour que, dans la mesure où cela dépend d'eux, la terre soit remplie de cette gloire de l'Éternel. Amen, c'est aussi une parole d'alliance. L'Amen, elle nous lie. Il ne nous dégage pas sur les monts Garitim et Ebal, lorsque les tribus scandaient bénédiction et malédiction, et qu'en face les autres, toutes ensemble, s'écriaient « Amen », ce n'était pas un jeu, pas du tout, ou un de ces mystères qui nécessitent une certaine mise en scène grandiose. Non, c'est pas Hollywood, c'était un acte d'alliance. Nous recevons les bénédictions promises, elles sont assurées. Nous prenons Dieu au mot, mais Dieu aussi, il nous prend au mot. Malheur à nous. Oui, en vérité, voyez-vous, les malédictions énoncées tomberont sur nous si nous nous détournons de l'alliance. Aujourd'hui, quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne montons pas au Garitim ou en Ebal, mais le sérieux des promesses et des avertissements de Dieu n'a absolument pas changé. Dire Amen à la parole de Dieu que nous lisons, c'est simplement déclarer que cette parole, c'est vraiment, vraiment la parole de l'alliance entre Dieu et nous, c'est-à-dire entre Dieu et moi. Parole de l'alliance qui me lie et qui m'attache à ce Dieu vivant. Nous le comprenons bien lorsque nous entendons l'Apocalypse rapporter que Jésus-Christ est l'Amen, et en effet, il est bien notre trait d'union avec Dieu, celui qui nous apporte, qui établit l'alliance nouvelle et éternelle avec Dieu. Tous nos Amen trouvent donc leur sens et leur accomplissement en lui. Amen, c'est encore une parole d'engagement et même d'obéissance. Je ne retournerai pas en arrière. L'Amen, c'est le pont, c'est la porte de sortie qui disparaît. J'irai donc en avant. Et voilà ce que je veux. C'est ainsi, oui, un oui énergique, définitif, c'est vraiment oui. Ce que j'ai dit, ma prière, ce ne sont pas des paroles en l'air, aussitôt oubliées, pas du tout. J'ai dit Amen au pardon que Dieu m'offre, c'est donc que je l'ai reçu. Je répète, j'ai dit Amen au pardon que Dieu m'offre. C'est donc que je l'ai bien reçu, ce pardon, et que je ne retourne pas dans le péché qui a nécessité ce fameux pardon. J'ai dit Amen à l'oraison dominicale, c'est donc que tout ce que je répète après le Christ, je l'ai pris à mon compte, c'est donc ma prière. Et lorsque je dis Amen, viens Seigneur Jésus-Christ, je n'emploie pas une formule tout simplement. J'attends le Seigneur, je me prépare à l'accueillir et j'aspire ardemment en sa venue. Amen, c'est enfin une parole de communion. Le culte chrétien est essentiellement communautaire. Nous rendons ensemble notre culte à Dieu et ensemble, à haute voix ou intérieurement, nous disons Amen à la lecture de la parole de Dieu, à la prédication de cette parole, à la prière, qu'elle soit d'humiliation, par exemple, ou d'intercession, et même d'action de grâce. Nous y sommes ensemble, et nous faisons ensemble alliance avec Dieu. Nous nous engageons donc ensemble, et c'est cela l'Église, des croyants qui ensemble disent Amen. Qu'en vérité, cet Amen sonne bien, sans fausse note, sans retenue, dans la communion réelle que donne le Saint-Esprit présent dans les cœurs. Le pasteur Westphal a écrit qu'une prière vaut ce que vaut son Amen, comme une lettre vaut ce que vaut la signature qui l'atteste. A-t-il raison? Oui, entièrement. Et je pense que vous en serez convaincus à la fin de cette méditation. Il est certain qu'il n'y a pas un terme de dévotion qui soit davantage utilisé que ce petit mot « Amen », prononcé qu'il est, avec plus ou moins de ferveur, dans toutes les synagogues, dans toutes les églises, par des hommes de toute race et de tout âge. La Bible nous rapporte qu'il fut déjà, oh oui, déjà proclamé parmi les rocs de Sinaï, et qu'il sera encore répété dans le ciel même, et ceci durant toute l'éternité. Toutefois, malgré sa diffusion universelle, sa fréquence et sa longue histoire, il y a sans doute peu de termes qui soient utilisés avec plus de légèreté, malheureusement. Pour d'innombrables croyants, Amen n'a pas plus de valeur que le mot fin, que l'on remarque à la dernière page d'un livre. C'est l'indication de quelque chose de terminé. C'est un vocable attendu, parfois avec impatience, par les petits et les plus grands, quand une prière familiale ou publique s'allonge et se prolonge parfois. Mais oui, voyez-vous, il faut bien l'avouer, Amen, c'est la plupart du temps le point final qui nous autorise à nous relever de nos genoux, point final placé, sans trop y prendre garde, et ceci par respect pour une ponctuation traditionnelle plusieurs fois millénaire. C'est ainsi que, en général, la portée du mot « Amen » est donc à sa valeur, que dis-je, son efficacité, se perdent parfois et appauvrissent malheureusement d'autant notre action dans la prière. Rappelons un peu, tout d'abord, sa magnifique et multiple signification. Amen ne veut jamais dire non. C'est une expression d'acquiescement, d'affirmation. C'est un synonyme de oui. Amen peut être traduit également par en vérité. Jésus-Christ dit par exemple, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais le texte original se lit ainsi. Amen, amen, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Saint Jean, chapitre 3, verset 3. Dans cette perspective, notre Amen peut être considéré comme un poinçon de garantie. Si vous voulez, comme un sceau de sincérité qui est placé sur l'ensemble de notre prière. Il déclare « Ce que je t'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je le pense, je le crois et je souhaite vraiment ce que je viens d'exprimer. » En chinois, le caractère d'imprimerie qui est utilisé pour dessiner le mot « Amen » se traduit par cette phrase « Mon cœur souhaite qu'il en soit exactement ainsi. » Comme ce serait beau si nos « Amen » exprimaient toujours notre adhésion entière, sincère et profondément cordiale. N'est-ce pas, mes chers amis ? Amen est aussi comme une déclaration de soumission à celui qui est plus grand que nous, c'est-à-dire à notre Père Céleste, auquel nous avons apporté notre prière avec confiance. Hélas, combien de fois, après avoir dit Amen, c'est-à-dire « je me soumets à ta volonté », ne nous sommes-nous pas révoltés car nous avions pensé avec une certaine audace qu'Amen voulait surtout dire « je demande qu'il en soit ainsi et pas autrement ». Pourtant, il est indubitable qu'Amen est une déclaration d'humble et confiante soumission. Déjà dans le langage courant, dire « oui » et « amen » signifie bien « se soumettre ». Il est bon de s'en souvenir en prononçant ce petit mot qui veut dire tant de choses. Mais « amen » peut être encore l'expression de la fermeté de nos intentions et de l'intensité de notre foi. Il résonnera alors vigoureux, clair, joyeux, et tout comme le révèle Apocalypse chapitre 19 verset 4, il pourra fort bien s'accompagner d'un vibrant Alléluia. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu en disant « Amen, Alléluia ». Si nous apprenions à prononcer « Amen » comme nous plaçons la signature qui nous représente tout entier et toujours nous engage, eh bien ce petit mot pourrait encore devenir comme un barrage d'une grande efficacité. Il fermerait la route du retour à nous-mêmes quand nous nous sommes élancés vers Dieu dans la prière. Il nous empêcherait de nous reprendre ou de reprendre ce que nous avons confié au Seigneur. Durant la journée, nous pourrions nous en souvenir et confirmer ce que nous avons dit le matin et en répétant pour nous-mêmes un Amen que seul Dieu et nous comprendrions. Oh oui, Saint-Esprit, enseigne-nous à dire Amen en vérité. Ainsi, l'Amen est donc ce oui, cette affirmation de sincérité, cet engagement ferme, cette confession de soumission et de foi, cette signature qui vraiment donne toute sa valeur à notre prière personnelle. Mais l'Amen est encore le témoignage audible de la communion fraternelle, de l'unité de pensée, de sentiments et de foi d'une communauté tout entière. Un vibrant Amen prononcé par une assemblée et non seulement en grande bénédiction à l'Église, mais elle constitue sans aucun doute un témoignage de foi des plus frappants pour les incrédules. Oui, en même temps qu'il gêne quelque peu les tièdes et ceux qui sont un peu, comment on pourrait dire, endormis. Voyez-vous, les historiens nous apprennent que de tout temps dans les synagogues, la fin d'une lecture biblique, d'une prière ou d'une action de grâce était accompagnée d'un fervent Amen. Du reste, la parole de Dieu exhorte à ce saint exercice et elle dit dans 1 Corinthiens, non, je me trompe, elle dit dans 1 Chronique, c'est dans les Chroniques, dans l'Ancien Testament, au chapitre 16, verset 36, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Les Israélites ne furent pas rebelles à cette exhortation, pas du tout. Et nous lisons en effet dans Néhémie, toujours l'Ancien Testament, au chapitre 8, verset 6, qu'au temps du réveil qui se manifesta alors, Esdras se leva pour bénir l'Éternel de tout le peuple, et tout le peuple répondit « Amen, Amen ». Et ceci durant le temps de sa ferveur, l'Église chrétienne primitive perpétua ce magnifique témoignage collectif. Du reste, l'apôtre Paul indique qu'en dans sa lettre aux Corinthiens, il demande aux chrétiens assemblés de parler en langage compréhensible afin que tous puissent dire « Amen » à ce qui doit être entendu. Et Justin le martyr, vivant au deuxième siècle sauf erreur, rapporte que dans les églises du Christ, tous les participants disent un sonore Amen collectif après chaque prière ou action de grâce. Au IVe siècle, celui que l'on a appelé Saint Jérôme mentionne le bruit de tonnerre de l'Amen des congrégations chrétiennes de Rome. C'est donc avec une certaine tristesse que nous constatons que l'on a tellement été habitué à se faire dans les églises de la Réforme et surtout à se taire carrément, qu'aujourd'hui on estime presque comme une excentricité de témoigner à haute voix de sa communion de foi ou de son adhésion à ce qui a été dit en prononçant le vibrant Amen. On a l'air d'être un peu fou si on dit Amen. Et nous devons réapprendre, chers amis, la véritable simplicité à la vraie fidélité. Il faut nous exercer à dire Amen ensemble, dans nos écoles du dimanche déjà, dans nos groupes de jeunes ensuite, et bien entendu dans nos assemblées, nos églises tout entières. C'est un témoignage à ne pas négliger, c'est une obéissance que nous devons à la lettre, mais surtout à l'esprit de la parole de Dieu et à la vie de l'Église. Mais Amen, prononcé à la fin de la prière, modèle, contient encore une signification particulière que j'aimerais partager maintenant avec vous. Je crois que l'Amen que l'on prononce après une prière inspirée de l'esprit de la prière modèle, et non seulement comme notre signature, mais aussi comme la signature du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voici ce qui m'autorise à le dire. Voyez-vous, la prière dominicale est le résumé de tout ce qu'il est primordial et légitime de demander à Dieu et d'obtenir de lui. Or, nous le savons, ce que nous, pécheurs sauvés par grâce, il faut bien le dire, pouvons recevoir du Seigneur, eh bien, nous est accordé par les mérites, non pas de nous, mais de notre Sauveur. C'est en son Saint-Nom que nous obtenons les exaucements de nos prières, et c'est par lui que l'exaucement final sera accompli. Devant Dieu, Jésus-Christ est notre caution, c'est notre garant, c'est notre répondant. Or, un des noms que Jésus-Christ porte est précisément celui d'Amen. En effet, nous lisons ceci dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen. Amen peut ainsi être considéré comme synonyme de Jésus-Christ. Il est dit, en effet, vous pouvez vérifier, Apocalypse, chapitre 3, verset 14, voici ce que dit l'Amen. Quand nous comprenons cela, et comment le comprendre si cela ne nous est pas révélé? Nous découvrons alors qu'en vérité, toute prière dans l'esprit de l'oraison dominicale est endossée par Jésus-Christ lui-même. L'Amen, c'est lui signant, c'est de signer de semblables prières de son Saint-Nom Tout-Puissant. C'est donc une signature du Tout-Puissant. Oui, croyez-moi, Jésus-Christ est l'Amen garantissant formellement et irrévocablement et aussi irréversiblement que de telles prières seront toujours honorées. N'oubliez jamais cela. Je dis bien toutes les sortes de prières en accord avec l'Esprit Saint de la prière modèle sont honorées, mais à la condition formelle que nous collaborions à cet exaucement par notre amour et par notre foi. C'est très exactement la pensée que l'apôtre Paul a exprimée dans une phrase mystérieuse que seuls les initiés peuvent bien comprendre. Je vous prie de l'écouter attentivement, car elle contient l'indication du principe même de tout exaucement. L'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Donc, l'Amen, c'est la garantie de l'exaucement, elle vient du Seigneur, et il est prononcé par lui. Et cette garantie se trouve dans la personne et dans l'œuvre même de Christ. Et c'est pourquoi, je le rappelle en passant, il faut toujours s'appuyer sur le Christ lui-même, plutôt que sur une promesse biblique détachée de son contexte. Avez-vous bien compris? Ne pas simplement essayer de piquer par-ci par-là au hasard. Et donc, ces promesses bibliques ne doivent jamais être détachées de leur contexte. Et ainsi, pour qui comprend bien et croit que nous avons tout pleinement en Christ, la caution du Seigneur signe déjà toute prière fidèle. Toutefois, voyez-vous, cet Amen définitif et efficace n'est agissant que lorsque nous l'animons de notre foi profonde. Une simple illustration pourrait nous faire bien comprendre ce qu'il faut entendre par cet engagement très important. Vos prières, lorsqu'elles sont fidèles, lorsque nos prières sont fidèles, c'est-à-dire lorsqu'elles s'accordent avec l'esprit de la prière modèle, elles sont comme signées à l'avance, oui, à l'avance, du signe de Christ, c'est-à-dire de l'Amen suprême. Seulement, si vous m'autorisez à utiliser cette image, je dirais que ce signe d'exaucement est tout d'abord dessiné par le Seigneur comme au crayon. Or, une signature au crayon n'est pas encore valable. Pour que ce signe de Christ, cet Amen, soit reconnu valable, il faut qu'il soit, en quelque sorte, repassé par nous à l'encre, oui, à l'encre de la foi. En répétant cela, pour que ce signe de Christ, cet Amen, soit reconnu valable, il faut qu'il soit en quelque sorte repassé par nous à l'encre de la foi. Le Seigneur, en principe, dit Amen à la prière fidèle. Mais cet Amen, c'est à nous de le prononcer, de le dessiner par la foi. L'Amen par lui est prononcé par nous. Je répète, l'Amen par lui est prononcé par nous. Ce qui vient d'être dit peut nous faire comprendre pourquoi beaucoup de prières fidèles ne sont pas exaucées. Ce n'est pas que l'Amen n'ait pas été décidé par Christ, mais c'est que notre foi ne l'a pas prononcé en vérité de sa part. En définitive, l'Amen efficace, c'est donc à nous de le dire pour l'exaucement de nos prières fidèles, car, voyez-vous, le Seigneur, lui, l'a déjà dit, l'Amen par lui est prononcé par nous. Et c'est surtout en pensant à cette indispensable collaboration de notre foi que je donnais mon adhésion en débutant à cette pensée d'Alexandre Westphal. Notre prière vaut ce que vaut l'Amen. C'est toujours de notre amour et de notre foi que dépend l'exaucement quand nous prions à l'intérieur de la volonté de Dieu, volonté résumée dans la prière modèle. Du reste, il en est des meilleures promesses de Dieu comme des meilleurs habits. S'il y a de la vie dans le corps, le vêtement nous tiendra chaud, autrement pas. Si nous avons de la foi et de la charité, les promesses seront opérantes, autrement, elles risquent d'être rendues inefficaces. Après avoir entendu ce qui nous a été montré au cours des méditations sur la prière modèle, je vous exhorte donc à cultiver une foi ardente, animée par une authentique charité condition, une vraie condition, absolue condition de la foi efficace. Et hormis la grâce, tout dépend de cela. Croyons donc, chers amis, ensemble, à la souveraineté de notre Père Céleste, à sa sainteté triomphante, à son règne éternel, à sa volonté d'amour, à sa providence suffisante, à sa miséricorde insondable et à sa protection efficace. Chers frères et sœurs et chers amis, au cours des semaines écoulées, nous avons appris ensemble dans l'écoute de la parole de Dieu à comprendre que ce que nous avons à dire dans la prière. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de bien dire notre prière, mais il s'agit de la dire avec notre cœur, avec notre vie. Notre vie doit être l'Amen. Car la Bible nous dit en effet que notre vie doit être cachée dans celle du Christ. Or, il est l'Amen lui-même, ainsi que nous le voyons dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 14. « Demeurez en moi, nous dit-il. » Et la Bible nous montre aussi, nous avons déjà cité certaines de ces paroles, que le croyant a revêtu Christ et qu'étant en Christ, il est donc devenu une nouvelle créature. Elle nous rapporte le témoignage de l'apôtre Paul qui pouvait dire « Pour moi, vivre, c'est Christ. » Et aussi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour lui, sa vie était donc cet Amen. Je répète, l'apôtre Paul pouvait dire, pour moi, vivre, c'est vraiment Christ. Et aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, ça change tout. Et pour lui, sa vie était vraiment ce merveilleux mot « Amen ». Beaucoup d'autres après lui ont pu dire la même chose. Oui, beaucoup aujourd'hui peuvent le dire et ils le disent avec des accents de joie qui prouvent bel et bien que c'est le meilleur qu'ils ont trouvé. Et vous, chers amis, pouvez-vous le dire? Avez-vous vraiment remis votre vie en Christ? Il est l'Amen, et c'est-à-dire, il est la vérité. Et toute vie qui n'est pas entourée par la sienne, qui n'est pas renouvelée par la sienne, qui n'est pas vivifiée par la sienne, eh bien, elle n'est pas une vraie vie. C'est l'apparence de la vie, mais ce n'est pas vraiment la vie. La vie, c'est Christ. Elle n'est finalement que en lui. Et c'est lui qui appelle tous les hommes et les femmes. Il vous appelle aujourd'hui, vous, chers amis, qui écoutez ce message. « Venez à moi, vous dit Jésus-Christ. » Il appelle celui dont la vie est la plus misérable comme celui qui pense que sa vie est la plus belle. Il vous appelle vous, qui que vous soyez. Venez à lui, tel que vous êtes. S'il a souffert, s'il est mort sur la croix, lui le juste pour les injustes que nous sommes vraiment, et c'est pour nous donner une vie nouvelle. C'est pour que nous puissions devenir ses enfants. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'aimerais vous donner un résumé de cette étude, si vous voulez, un condensé. Remarquez que la prière commence par ces mots. Premièrement, notre Père. Jésus ne nous a pas appris à dire « mon Père », mais « notre Père ». Le disciple doit être capable de s'identifier aux gens là où ils sont, oui, de se placer dans la situation dans laquelle ils sont placés. Le disciple n'est pas quelqu'un qui est parvenu au but. Bien au contraire, il est en apprentissage permanent. Il est en quelque sorte un pèlerin qui cherche à faire de sa vie tout ce que Dieu voudrait qu'elle soit. Par conséquent, il est de son devoir de comprendre les besoins et les faiblesses des gens. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié. Jésus ne priait pas afin que son nom, à lui, soit sanctifié, mais que le nom du Père soit sanctifié. Avons-nous bien compris cela? Troisièmement, que ton règne vienne. Le souhait de Dieu est de pouvoir régner ici-bas, comme il le fait au ciel. Il est en train de bâtir son royaume, et ce que vous travaillez infatigablement à édifier le royaume du Christ, ou plutôt à vous construire votre petit royaume personnel. Dans votre Église, parlez-vous de vos activités, de votre contribution et de vos projets. Ces choses retiennent-elles toute votre attention? Ou bien pouvez-vous dire, en toute honnêteté, que c'est le royaume du Christ que vous cherchez à bâtir? L'un des moyens de rechercher le royaume de Dieu est le travail d'évangélisation, me semble-t-il, afin de faire passer des gens des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. Prenez-vous une part active au travail d'évangélisation. Quatrièmement, que ta volonté soit faite. Une fois encore, constatez que le Seigneur Jésus n'a pas dit « que ma volonté soit faite », mais que ta volonté, oui, mais que ta volonté soit faite. Donc, il exprimait la même pensée que lorsque il affirmait « moi ». Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de qui? La volonté de celui qui m'a envoyé. Notez l'évangile de Saint Jean, chapitre 5, verset 30. Vous ne pouvez pas prier que ta volonté soit faite si vous ne vous préoccupez pas sincèrement et de manière active de rechercher la volonté de Dieu. Si vous agissez ainsi, le Saint-Esprit ne montrera un conseiller fidèle et éclairera donc les points qui vous paraissent encore obscurs. Cinquièmement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous ne pouvons réellement prier cela que si nous pensons « Tout ce que j'ai vient de Jésus-Christ et lui appartient. » Sinon, pourquoi lui demander quelque chose qui nous reviendrait de manière naturelle, d'une façon ou d'une autre ? L'apôtre Paul pose le problème ainsi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, oui, en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un très grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Parce que, voyez-vous, Jésus-Christ vous a vraiment racheté au prix de son sang précieux. Vous ne vous appartenez donc plus à vous-même. C'est à lui que vous appartenez. Le reconnaître comme Seigneur implique que vous devez accepter cela et lui livrer tout votre être, vos biens et vos espérances, afin que désormais ces choses lui appartiennent entièrement. Réfléchissez un peu à ce que vous possédez de plus précieux à vos yeux. Quoi que cela soit, Demandez-vous qui en est réellement le propriétaire. Si l'objet en question appartient vraiment à Jésus-Christ, vous n'aurez aucune difficulté à le mettre à sa disposition afin qu'il l'utilise comme bon lui semble. Sixièmement, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus-Christ nous dit de prier ainsi, « Seigneur, je désire que tu me pardonnes selon la mesure que j'emploie pour pardonner aux autres. » Vous sentirez-vous capable, chers amis, de prononcer une telle prière? Pourriez-vous vous résoudre à ce que Dieu vous pardonne en proportion exacte de ce que vous pardonnez aux autres? La notion de souveraineté conduit à un double engagement qui implique non seulement de recevoir, mais encore de donner en retour. La plupart des gens veulent bien que Dieu s'engage et se consacre entièrement à eux, mais rares sont ceux qui désirent la réciproque. Septièmement, ne nous induis pas en tentation. Ici, Jésus-Christ prie que le Père ne permettait pas que nous soyons placés dans des situations où nous soyons sujets à tentation. Il y a dans la vie beaucoup de situations qui ne sont pas mauvaises ou néfastes en elles-mêmes, mais qui offrent à Satan des occasions de nous subjuguer, voire même de nous dominer. Jésus-Christ n'a pas dit « ne nous amène pas à pécher », mais il a dit huitièmement « ne nous induis pas en tentation ». Faire cette prière suggère que je veux bien abandonner des choses qui sont douteuses au regard de la foi, que je désire ardemment non seulement abandonner les choses mêmes qui constitue mon péché, mais également toutes les parties de ma vie qui peuvent donner prise, une prise à la tentation. Neuvièmement, mais délivre-nous du malin. C'est ici la même prière que celle que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour ses disciples la nuit où il a été livré, notez Saint Jean, chapitre 17, verset 15. Donc, nous mettre sous la protection, voyez-vous, sous la protection du Seigneur, indique aussi que nous n'avons aucun moyen d'assurer nous-mêmes notre défense et de mener nos propres combats. Christ est lui seul doit nous garder. Aucun de nous, par sa propre force, ne peut faire front à l'adversaire et l'emporter. Mais Jésus-Christ n'a pu remporter sa victoire sur Satan que au prix de la croix où il a versé son sang précieux pour nous. Et Jacques, le frère dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, résume les choses ainsi. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et vous verrez qu'il fuira, loin de vous. Jacques, chapitre 4, verset 7. Le diable s'enfuira devant nous à deux conditions. Que nous nous soumettions entièrement au Seigneur et que nous lui résistons par la puissance, pas de nous-mêmes, mais par la puissance de Dieu. Et dixièmement, ne jamais oublier que Amen ne doit jamais être dit à la légère. Chers amis, ne restez pas dans l'isolement et la solitude. C'est pas la meilleure des choses. Bien sûr que si on est très âgé, malade, ou même légèrement, ou même beaucoup handicapé, ça c'est tout autre chose. Donc, ne restons pas des orphelins. Entrez maintenant dans la grande famille des enfants de Dieu, et vous le pouvez en cet instant même, tandis que vous êtes en train de m'écouter. Dites simplement au Christ, lui qui a vraiment vaincu la mort et a mis en évidence la vie, et qui est éternellement vivant, dites-lui simplement, Seigneur Jésus-Christ, tel que je suis, je viens à toi. Et lui qui est l'amour, la vérité, il vous recevra selon sa promesse. Il vous reçoit, vous, qui vous donnez maintenant à lui. Alors maintenant, répétez avec moi, avec le Christ qui nous l'a enseigné, avec tous les croyants qui ont cru en lui, répétons ensemble la plus extraordinaire de toutes les prières et dites-la à haute voix en même temps que moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton saint nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime, et cela est une réalité, et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis, et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, et la prochaine série sera hautement intéressante également. Et merci encore. Et à bientôt à nouveau. Au revoir.